France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Madame de Sévigné chante. C'était le titre d'un étrange atelier de création radiophonique que proposaient Michel Chailloux et Jean-Loup Rivière en 1976. Y avait-il dans cette émission une manière comme une autre de nous recommander la lecture des lettres de Madame de Sévigné ? Ou de nous dire peut-être que, décidément, 3 siècles et demi après la naissance de Marie de Rabutin-Chantal, autrement dit de la marquise aux célèbres bafouilles, le monde avait bien changé et qu'il était bien difficile de faire chanter ensemble le XVIIe et le XXe siècle finissant. À chacun d'en juger en écoutant cet ACR qui, à pied, en carrosse et par le métropolitain, naviguait entre les phrases des missives de Madame de Sévigné pour aller et venir entre sa demeure natale de la place des Vosges et son château, le château des Rochers, près de Vitré. Atelier de création radiophonique, Madame de Sévigné chante, lettre recommandée, première diffusion le 5 décembre 1976 sur France Culture.
ACR, Atelier de création radiophonique.
Atelier de création radiophonique. Madame de Sévigné chante. Au quelques moments d'une préoccupation, du musée carnavalet au château des Rochers, en passant par le métropolitain. Par Michel Chailloux, Jean-Loup Rivière. Avec Roger Duchesne, Nathalie Nerval, Jacques Willem, les fermiers et les habitants du Rocher.
Madame de Grignan,
j'ai l'impression que c'est une dame écrivant une lettre. Oui, et puis c'est tout.
C'est de qui? C'est de qui?
Oh, cette personne, c'est un anonyme. Cette personne, c'est une dame écrivant une lettre, n'est-ce pas?
Je n'en ai reçu que 3 de ces aimables lettres qui me pénètrent le cœur. Il y en a une qui me manque.
Oh ben là, on commence à biner les betteraves, là. Après, il faut les démarrer, il faut les éclaircir.
Les premières visites, j'étais pas là. Il y a 2 ans, on s'est dit que j'étais partie. Et les premières visites, elles ont été faites par le jardinier.
À Madame de Grignan. Sans que je les aime toutes et que je n'aime point à perdre, ce qui me vient de vous.
Madame de Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal, est née à Paris, place Royale, aujourd'hui place des Vosges, le 6 février 1726. Petite fille de Sainte-Chantal. Il y a tout un côté de sa famille qui me paraît riant, sans les Coulanges. Elle est la fille unique d'un homme au nom magnifique, Cels Bénigne de Rabutin, tué par les Anglais dans l'île de Ré. De sa mère, on ne sait rien. De sa fille, on ne sait rien. De sa mère, on n'a pas entendu la voix. De sa fille, on n'entend presque pas la voix.
Je croirais n'avoir rien perdu. Je trouve qu'on ne peut rien souhaiter qui ne soit dans celle que j'ai reçue. Elles sont premièrement très bien écrites et de plus si tendres et si naturelles qu'il est impossible de ne les pas croire. La défiance même en serait convaincue. Elles ont ce caractère de vérité que je maintiens toujours, qui se fait voir avec autorité pendant que le mensonge demeure accablé sous les paroles sans pouvoir persuader. Plus elles s'efforcent de paraître, plus elles sont enveloppées. Les vôtres, sont vraies. Vraies. Les vôtres sont vraies. Et le paraissent. Vos paroles ne servent tout au plus qu'à vous expliquer. Et dans cette noble simplicité, elles ont une force à quoi l'on ne peut résister. Voilà ma bonne comme vos lettres m'ont paru. Mais quel effet elles me font? Quelle sorte de larmes je répands en me trouvant persuadée de la vérité? De la vérité de toutes les vérités, de la vérité de toutes les vérités que je souhaite le plus, sans exception.
Puis par ailleurs, madame, pour la marquise, je sais pas trop ce que de vous dire, moi. Parce qu'on m'a dit de tout, hein. Je vais mieux vous le dire. Dans sa vie privée, vous savez, on m'a dit de tout. Mais j'ai toujours dit que, d'après ses mots et ce que j'avais entendu, elle ne pouvait pas être ce qu'on m'a dit.
Vous avez une certaine estime pour elle,
pense. Oui, d'après ses écrits. D'abord, rien que son histoire, puisque paraît-il qu'elle a fait bâtir sa chapelle. C'est qu'au pareil, c'est des anecdotes que j'ai appris, qu'elle a fait bâtir sa chapelle et qu'elle était contrariée avec sa fille. Et que la première lettre ayant envoyée à sa fille, j'ai fait
un
tableau de la Sainte Vierge sur mon
hôtel. Cette émotion que j'appelle Madame de Sévigné, j'en parle.
C'était la suite du groupe qu'elle avait eu avec sa fille. Je ne sais pas si c'est vrai. Je raconte ça comme ça. Voilà. Eh bien, le cadran solaire veut dire quand même aussi qu'elle avait quand même des idées.
Madame, je ne sais pas trop, Madame de Sévigné, parce que moi, il y a longtemps que je n'étais pas ici, quand. Enfin, je sais que c'est une grande comtesse.
Le château des Rochers, vous y allez souvent ou vous y alliez souvent?
Ah oui, j'ai été bien des familles. Monsieur le comte m'a jamais montré son bien au château du dedans, rien du tout.
Il va souvent parce que sa fille est au Rocher, mariée au Rocher.
Oui, oui, ma fille, elle est mariée au Rocher.
Elle habite au Rocher,
oui, oui, dans la ferme à côté. Vous savez que Madame de Sévigny, c'est vieux, hein, moi je ne l'ai jamais... Dans les livres, mais jamais autrement. Dans l'école, ils ne nous apprenaient pas ça, notre enjeu. Mais moi, j'aimais mieux m'amuser que de compter. J'aimais mieux sauter à la corde, vous savez, que de lire dans mes livres.
En me trouvant persuadée de la vérité de toutes les vérités, de la vérité de toutes les vérités que je souhaite le plus, sans exception, vous pourrez juger par là de ce que m'ont fait les choses qui m'ont donné autrefois des sentiments contraires. Si mes paroles ont la même puissance que les vôtres, il ne faut pas vous en dire davantage. Je suis assurée que mes vérités ont fait en vous, leur effet ordinaire.
Il a-t-il connu Madame de Sévigny, monsieur le comte?
Il y a 300 ans, plus de 300 ans qu'elle est morte.
C'est bien que vous ne l'aviez pas connue. Vous voyez que je ne l'ai pas pris. C'est comme mal à vous, elle doit avoir les talons bien rouges.
Mais je ne veux point que vous disiez que j'étais un rideau qui vous cachait. Tant pis si je vous cachais. Vous étiez encore plus aimable quand on a tiré le rideau. Il faut que vous soyez à découvert pour être dans votre perfection. Nous l'avons dit mille fois. Pour moi, il me semble que je suis toute nue, qu'on m'a dépouillée de tout ce qui me rendait aimable. Je n'ose plus voir le monde. Et quoi qu'on ait fait pour m'y remettre, j'ai passé tous ces jours-ci, comme un loup-garou, ne pouvant faire autrement. Peu de gens sont dignes de comprendre ce que je sens.
Et je ne me trouve pas diminué d'être fermier, parce qu'autrefois, j'ai vu comme j'étais à l'école, eh bien, souvent, on prenait un fermier pour un pauvre type. Eh bien, ça, parce qu'on a des jugements, je ne sais pas, qui valent bien des gens des villes. Hein. Il y a 45 ans de ça, parce que j'étais en pension en ville, et j'étais chez une vieille tante. Et alors là, j'ai toujours beaucoup observé les gens. Hein, et là, il y avait des jugements qui me blessaient même, sur les fermiers. On réfléchit, justement dans les villes, ça me que touf, parce qu'ils sont là, ils bouchent tout, ils sont pas voulant l'esprit. Tandis qu'à la campagne, ben, on a la nature, on est seul. Et quand on est seul, on réfléchit, on pense. Et...
J'ai cherché ceux qui sont de ce petit nombre et j'ai évité les autres. Il nous semble que vous êtes à Moulins, aujourd'hui vous y recevrez une de mes lettres. Je ne vous ai point écrit à Briard. C'était ce cruel mercredi qu'il fallait écrire. C'était le propre jour de votre départ. J'étais si affligée et si accablée que j'étais même incapable de chercher de la consolation en vous écrivant.
Et la grille ouvre sur quoi? Sur
sur le champ où Madame de Sévigné devait batifoler sans doute. Enfin, supposons.
Thank you.
aussi d'ailleurs dans le goût de ceux que le nôtre dessinait autrefois. Et ce qui est le plus intéressant, surtout par rapport à Malo-Sévigné, c'est l'écho qui est là-bas sur la place Coulanges, toujours évoquant d'ailleurs son cher oncle. Et l'écho, nous allons tout à l'heure aller l'essayer. Et Madame de Sévigné l'avait très gentiment appelé le petit rediseur de mots jusque dans l'oreille. Parce que la place est bordée d'un mur en hémicycle, et là, il y a une résonance qui est assez particulière et qui justifie, je pense, l'appellation de Madame de Sévigné.
Simon dit de Madame de Sévigné qu'elle était d'une générosité extrême. Malheureusement, si l'on court à Marly pour essayer de retrouver la cour, il ne reste plus qu'un abreuvoir pour chevaux et un parc désert. Plus de Madame de Sévigné, plus de Saint-Simon. La cour a disparu du côté de Versailles. Un moine marchait dans le marais. De tourner dans le marais. Dans les rues de Sévigné, ou au 23, où se trouve l'hôtel Carnavalet. En somme, d'inscrire sa marche au nord de la Seine. D'aller de la rue Lobo à celle de Rivoli. De Sébastopol à la rue Turbigo. Turbigo. Si le vertige prend à la rue d'Urbigo, il faut continuer quand même. L'humeur de ma mère ou de ma fille.
C'est prolongé par le bois.
Ah oui.
Les deux humeurs ont la même longueur et vont rejoindre l'allée verte à côté, oui. Qui est parallèle à Oumaille.
On voit l'horizon, là-bas, l'humeur de le point de vue.
Me voici à la joie de mon cœur, toute seule dans ma chambre, à vous écrire paisiblement. Rien ne m'est si agréable que cet état.
Quand il y a du soleil, je laisse ça.
Du temps de Madame de Sévigné, il y avait la chapelle qui existe encore, oui. Qu'elle a fait bâtir. Il y avait un colombier qui était vis-à-vis. Oui. Et alors, il y avait l'avant-cour, la cour d'honneur et la basse-cour.
Ah, très bien, oui. Et le parc est de l'autre côté.
Quand elle dit qu'elle ne voudrait pas être sur le toit des rochers à 12 sous par jour, eh bien non, j'approuve pas ça.
Oui, c'est... mais c'est passé, vous parlez du charpentier.
Oui, elle se rendait bien compte qu'elle faisait la dame et qu'elle avait des ouvriers qui montaient à 30 mètres pour réparer la toiture à 12 sous par jour.
Oui, mais 12 sous par jour, c'était de l'époque. Hein.
Oui, mais je sais bien, oh mon Dieu, sûr que oui, mais j'ai pas vécu à 12 sous par jour, mais j'ai vécu à 100 sous par jour, à journée, aussi, et faire des bonnes journées. C'est pour ça, chacun est né dans sa situation sur la terre, on l'a fait comme on peut, arrive à la fin de la vie. J'arrive à vivre comme je peux, mais je regrette rien du tout. Non.
L'autre fois, vous viviez quand même de Sévigné, vous chauffiez au bois.
Oui.
Dans votre cheminée, tandis que maintenant, vous avez le chauffage central en ville.
Oui, mais je me chauffe au bois aussi, tenez. Je me chauffe au bois, dame. Mais j'ai pas encore que le bouton à tourner, il faut que je le casse, il faut que je porte mon panier et puis tout ça. Oui, oui.
Euh,
Elle est construite sur un plan octogonal, qui est assez rare au XVIIe. Il n'y a que dans la région trois chapelles construites sur ce plan. Une à la Bichetière en Cornillé et une à la Prévalade-Padrenne. Et si on se réfère à l'époque de Madame Sévigné, eh bien, elle est d'autant plus intéressante qu'elle venait d'ici, finalement, et que, comme l'a dit M. Ternay, elle l'a fait construire sur l'instigation de son oncle. Il ajouterait même qu'elle aimait beaucoup son oncle et qu'elle l'avait très gentiment appelé le bien bon, parce qu'il l'aidait beaucoup quand elle a été veuve assez jeune, et elle a dû s'occuper de ses enfants et lui donner un précieux secours, d'où son appellation. Alors, autrement, dans la chapelle, on peut considérer le mobilier, qui est 18e, les fauteuils qui sont amusants, qui amusent beaucoup, qui intéressent beaucoup les touristes, parce que, vous voyez, ils font prix Dieu, ils se retournent.
Ah bon ?
Alors, on peut aussi, dans le petit reliquaire, là, il y a les souvenirs de Sainte-Jeanne de Chantal, qui est connue aussi sous le nom de Jeanne Frémiot, et c'était la grand-mère de Madame Sévigné. Oui. Et c'est d'ailleurs cette personne qui a fondé, avec Saint-François de Sales à Annecy.
Oui, les visitandines.
Lors de la visitation de Sainte-Marie. Et on retrouve le portrait de Jeanne Frémiot dans le grand salon où tout à l'heure nous irons.
Une chose absolument incompréhensible, n'est-ce pas, pour savoir un petit grippe minot, un petit escalier.
Qu'est-ce que c'est un petit grippe minot?
Un petit grippe minot, c'est une espèce de petit débarras, de petit je ne sais pas trop quoi, de petites pièces, n'est-ce pas, un petit cabinet, un petit tout ce que vous voulez. Mais on n'arrive pas très bien à le situer.
Je pense qu'il faut il faut rattacher grippe minot au nom du comte de Grignan, le Matou. Le comte de Grignan, c'est le Matou, le grippe minot, c'est l'endroit où on est bien.
La petite pièce qui est là où j'ai mis des céramiques, n'est-ce pas? Et cette pièce-là, on appelait ça le salon de Mme. C'est faux. C'est complètement faux. Le salon de Mme n'a jamais été ici, n'est-ce pas?
À mon avis, la partie qui est là,
c'est les appartements du fils
qui était réservé à l'abbé de Coulanges.
Oui, c'est ça. Oui.
À l'abbé Tétu, à l'abbé Bigot.
C'est ça.
C'était ce qui était sous-loué ici.
Non, je crois que l'abbé de Coulanges devait habiter le premier étage sur l'autre aile, il me semble. Je me souviens plus très bien.
Moi, je pense qu'il avait l'autre côté.
En tout cas, ceci, il y a une chose absolument certaine, c'est que ceci était un escalier. C'était un escalier. Sur les plans anciens, c'est un escalier.
C'est un escalier.
C'est une chose plaisante à observer, que le plaisir qu'on prend à parler quoique de loin à une personne que l'on aime. Et l'étrange pesanteur qu'on trouve à écrire aux autres.
J'aimerais à lire, mais ça me fatigue tout ça. Puis vous savez, quand on a fait une journée, hein.
Oui, bien sûr.
Puis d'abord, je les ai pas, les lettres de Madame de Sévigné. Mais je n'ai appris beaucoup, beaucoup par les visiteurs.
Donc là, nous sommes dans le corps du logis du Château des Rochers.
Oui. Hein,
et c'est un peu les appartements de Madame de Sévigné. C'est
peut-être les appartements
de Madame de Sévigné, c'est cela.
Si on veut retrouver Madame de Sévigné dans un cadre d'époque, il faut imaginer ici une salle avec des murs enduits de chaux gras et avec un plafond fleur à poutre.
Et tapisserie probablement.
Oui. Et un sol en carreaux de terre cuite. C'est ça.
Et une grande cheminée.
Bien sûr.
Quand Madame de Grignan a vendu les Rochers en 1715 aux Nécumières, elle avait gardé, elle avait vendu tous les meubles et tous les tableaux avec l'autorisation de son vivant de prendre ce qu'elle voulait.
Il faut dire qu'il y a un côté un peu nomade, si j'ose dire, dans la façon de s'installer dans les maisons. Les gens très riches qui possèdent leur hôtel peuvent évidemment faire des travaux que quelqu'un qui est locataire ne peut pas faire. Et les travaux principaux, ça consiste à faire des boiseries, des lambris extrêmement somptueux, ce que Madame de Sévigné n'a jamais fait. Elle se contente d'accrocher ses tapisseries et puis elle a des murs en tissu, probablement.
C'est ça. Et alors, pour le plafond, quand il s'installe à Carnavalet, on a un texte très intéressant, parce qu'elle dit à sa fille, au lieu des boiseries, nous nous contenterons de ces toiles peintes comme Monsieur de Pomponne. Et j'ai fait des recherches pour retrouver quelles étaient ces toiles peintes. Et l'encyclopédie de Diderot, dans un article de M. Jaucourt, explique que c'était des toiles que l'on collait au plafond et qui remplaçaient les boiseries et les dorures.
Oh ben, dans nos régions d'élevage, hein, vous savez, il y a toujours du travail, il y a toujours une servitude, les bêtes nous tiennent, il n'y a pas à dire. L'hiver, c'est encore plus tenu.
Lire vos lettres et vous écrire font la première affaire de ma vie.
Madame, je ne sais pas, moi, la chapelle du Château des Rochers a été construite en 1671. Il va falloir que j'attende un petit peu parce que.
C'est ça.
Alors, la première maison, cette chapelle, a été dite le dimanche 15 décembre 1675 par le recteur de la paroisse de Bréa, l'arrondissement de Vitré. On lit dans une des lettres de la marquise de Sévigné à sa fille : j'ai un tableau de la Sainte Vierge sur mon autel, mon crucifix et mon écriteau Soli Deo. Ces objets désignés par elle sont ceux qui ornent encore aujourd'hui la chapelle, le reliquaire, je vais être obligée de le reliquaire, les chandeliers. Le reliquaire, les chandeliers, les boiseries et les sculptures datent de l'époque de la marquise. Comment c'était aussi qu'elle disait ? Je suis surprise un peu, parce que ça me revient même quelquefois la nuit que je raconte ça. Parce que je n'étais pas eu roll-ball, alors ça me revient quelquefois. Alors, les boiseries et les sculptures datent de l'époque de la marquise. Alors, les fauteuils, les prie-dieu, la lampe fleur de l'île Louis XIII. Mais c'est pas comme ça qu'il faut que c'est dit. Pas comme ça qu'il faut que c'est dit. Il y a une façon de le dire. Comme ça. Je sais que c'est comme ça, mais c'est pas comme ça que ça s'exprime. Je ne me rappelle plus.
C'est la chambre. Si vous rappelez
ça. Oh, dame, pareil, il va peut-être bien avoir des. Il va peut-être bien avoir des arrêts, mais oui. C'est pas fini là. Hein. Il y a le. Quand on a pris sa peinture. Mais là, vous me surprenez, vous m'auriez dit. Parce que je rabote ça quelquefois de temps en temps. Et pour la chambre, on en a, de la chapelle, on sort dans le jardin. Alors, le jardin du Château des Rochers a été construit par l'abbé Christophe de Coulanges, abbé de Livry, non, c'est pas comme ça, au maternel de la marquise de Savigny, celui qu'elle appelle familièrement. Non, c'est l'être le bien bon. C'est comme ça que j'aurais dû commencer mon affaire. Eh bien, oui, c'est ça que j'aurais dû dire. La chapelle du Château des Rochers a été construite par l'abbé Christophe de Coulanges, abbé de Livry, oncle maternel de Madame la Marquise de Sévigné, celui qu'elle appelle familièrement dans ses lettres le bien bon. La première messe dans cette chapelle fut dite le dimanche 15 décembre 1675 par le recteur de la paroisse de Bréa, l'arrondissement de Vitré. On lit dans une des lettres de la Marquise de Sévigné à sa fille : j'ai un tableau de la Sainte Vierge sur mon autel, mon crucifix et mon écriteau Soli Deo. Ces objets désignés par elle sont ceux qui ornent encore aujourd'hui la chapelle, le reliquaire, le chandelier, les boiseries, les sculptures datent de l'époque de la marquise. Eh bien, il y a la lampe fleur de lit, pourtant, c'est encore un autre. C'est point comme ça. Et puis, vous avez le. Comment on appelle ça ? Qui est sculpté là ? Comment on sort ? En sortant, je dis ça. Comment c'est dit déjà ? L'écusson. Des.
Représente déjà.
Oui, c'est ça. L'écusson, comment on sort là ? Mais c'est point comme ça que je m'exprime. C'est point comme ça. Si vous voulez vous traduire ça, c'est saboter.
Thank you.
l'épouse de Marquis de Sévigné qui mourra en duel pendant la Fronde. Ce qui est curieux d'ailleurs, je crois que c'est qu'il est mort aussi un 6 février, à moins que je me trompe. Sa fille la quitte un 4 février, sa pleine douleur parlait le 6. Je crois que son mari meurt en 1651, le 6 février. Je crois même qu'il meurt tué en duel la nuit même où Mazarin quitte Paris enveloppé d'une centaine de ses amis vers Saint-Germain-en-Laye. Il reste seul avec ses deux enfants, Françoise Marguerite, future comtesse de Grignan, et Charles, à Charles.
Ma douleur serait bien médiocre si je pouvais vous la dépeindre.
Et vous êtes sur la table des Rochers depuis 42 ans.
Vous avez
plus jeune,
enfin, 44 ans,
j'ai
8 ans, moi je suis
une... La Féronie, après toi.
Ah oui, c'est-à-dire le père de François était avant moi, là.
Avant toi.
Ah oui, pas avant mes parents, mais...
Que le dernier, la dernière famille.
Oui.
Et c'est une ferme qui existait du temps de Mme de Sévigné.
Ah oui, oui, certainement.
Ah oui, c'est une ferme qui dépendait du château et qui existait donc du temps de Marquis.
C'était la ferme à Loire, probablement.
Ah oui.
Mais il y avait beaucoup de monde qui habitait là, il y avait des gens qui habitaient là, il y en avait qui habitaient là, il y avait partout.
Sans ces deux pendants que sont sa fille et son fils, disait-elle, qu'elle était.
Père de Mme de Sévigné.
Ah, c'est Henri de Sévigné.
Le coulant.
Non. Ah non, le père.
Pardon, le père de Mme de Sévigné.
C'est Béni. Celui qui.
Rabutin de Chantal, le fils de Saint-Jean de Chantal.
Celui qui se battait en duel.
Et celui qui a passé par le secours de sa mère quand elle lui a dit qu'elle voulait rentrer au couvent.
C'est ça. Et celui qui s'est battu en duel, un duel resté fameux et qui a été obligé de partir en exil.
Et il a été tué dans l'île de Ré contre les Anglais et il est enterré encore dans l'île de Ré. Et à sa femme, qui est une Coulanges, et c'est par elle que Mme de Sévigné a eu de la fortune, et qu'elle était en relation avec avec tous les financiers de l'époque, Fouché, Pomenard.
Et c'est dans la famille des Coulanges qu'elle a été élevée quand elle était petite fille.
Avec l'abbé de Coulanges qui est au-dessus de la porte.
C'est ça.
Le bien bon.
Madame Badoire.
C'était surtout des femmes, en fait. C'était surtout des institutions.
Oui. Et puis après, c'était une demoiselle Boudy, que j'avais eu en deuxième classe, et après, c'était Monsieur Porras. Je faisais un peu de tout forcément à l'école.
De la lecture
des problèmes d'arithmétique, quoi. Et puis.
Deviez de bon en arithmétique.
Oh, meilleur en orthographe.
Meilleur en orthographe.
Ah oui.
Vous étiez à littéraire, quoi. Et vous avez quitté l'école à peu près à quel âge ?
12 ans, à peine 12 ans.
On avait Mlle Julien, Mlle Augustine. Madame, en tant qu'elles sont mortes.
Et vous aviez des livres de lecture ou vous rappelez ?
Oui, l'histoire de France, l'histoire sainte, la géographie. Mais moi, j'ai jamais appris géographie, je ne connais pas ça.
Et dans ce qui vous donnait à apprendre, qu'est-ce qui vous intéressait le plus ?
De ce temps-là, vous savez, les instituteurs n'étaient pas comme ils sont maintenant. Ils ne poussaient pas, mais les enfants durs.
Vous aviez envie de vous dépenser physiquement et d'aller courir et...
On n'a pas vu que je sautais la corde, c'était suffisant.
Monsieur Poitevin.
Monsieur Poitevin.
C'était un ancien frère.
Des alors... écoles chrétiennes.
Oui. Mais c'était un cerveau. Je ne sais pas ce qu'ils sont maintenant, mais réellement c'était un cerveau. Hein. Parce qu'il expliquait des histoires de la Bible. Il y avait tout ça là.
Ma douleur serait bien médiocre. Ma douleur serait bien médiocre. Ma douleur serait bien médiocre. Serait bien médiocre si je pouvais vous la dépeindre. Je ne l'entreprendrai pas aussi. J'ai beau chercher ma chère fille, je ne la trouve plus. Et tous les pas qu'elle fait l'éloignent de moi. Je m'en allais dans la Sainte-Marie, toujours pleurant, toujours mourant. Il me semblait qu'on m'arrachait le cœur et l'âme. Et en effet, quelle rude séparation. Je demandais la liberté d'être seule. On me mena dans la chambre de Madame du Housset. On me fit du feu. Agnès me regardait, sans parler. C'était notre marché. C'était notre marché. J'y passais jusqu'à 5 heures sans cesser de sangloter. Toutes mes pensées me faisaient mourir. J'écrivis à Monsieur de Grignan, vous pouvez penser sur quel ton. J'allais ensuite chez Madame de Lafayette qui redoubla mes douleurs par la part qu'elle y prit. Elle était seule et malade et triste de la mort. De la mort d'une sœur religieuse. Elle était comme je la pouvais désirer. Monsieur de la Rochefoucauld y vint. On ne parla que de vous. On ne parla que de vous, de la raison que j'avais d'être touchée. Et du dessein de parler comme il faut à Mélusine. Je vous réponds qu'elle sera bien relancée. Dacqueville vous rendra un bon compte de cette affaire. Je revins enfin à 8 heures de chez Madame de Lafayette. Mais en entrant ici, bon Dieu, comprenez-vous bien tout ce que je souffris. Les réveils de la nuit ont été noirs. Et le matin ? Je n'étais point avancée d'un pas pour le repos de mon esprit.
Oh,
pense qu'elle a écrit dans sa chambre, mais je crois qu'au XVIIe siècle, on écrit toujours un petit peu partout. On est partout chez soi.
Debout, assis, couché.
Non, couché, je ne pense pas, parce que ce n'est pas confortable. Il ne faut pas oublier que Mme Sévigné a tout de même eu un rhumatisme à la main, qui lui a laissé quelques séquelles, donc elle n'écrit pas forcément. Et puis, enfin, il y a le problème d'avoir... on n'écrit pas avec un stylo, ni avec un bic, hein, on écrit avec une plume qu'il faut tremper dans l'encre, et donc des exigences techniques. Il faut sécher le papier, il faut avoir de la poudre. Je pense qu'il faut être à son aise pour écrire.
À combien un vol d'oiseau des rochers, là ?
300.
Il est 9h au soleil.
Il est 9h au soleil. Ouais, qu'est-ce que vous faisiez ?
Je bignais des betteraves.
Vous bignez des betteraves, oui. C'est sur un semis, on nous a dit que vous étiez du côté d'un semis. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un semis ?
Un semis, oh, bah, c'est-à-dire c'est des graines qu'on sème, et alors on les arrache au bout de 2 mois, mettons, pour les replanter.
De mon intérêt pour Livry sont peut-être placés ailleurs, dans le côté feuillu des choses, peut-être que c'est ça, je ne sais pas, parce que Livry c'est pas les rochers, pourtant il y a autant de feuilles à Livry qu'aux rochers sans doute. Comment se fait-il que c'est pas la même chose? Peut-être que c'est parce qu'Livry m'évoque le bien bon, son oncle qui était si charmant pour elle, peut-être parce qu'il y a une espèce de tendresse répandue sur les choses dans l'abbaye de Livry. Peut-être que c'est ça, dans le fond, qui m'intéresse tant dans Livry. À moins que ce soit l'aspect champêtre revu par la littérature du temps, parce que malgré tout, dans ces lettres, il y a une composition littéraire, ça sent pas obligatoirement l'air des champs, ça sent une nature organisée, travaillée, fleurie. Peut-être que les sentiments de Madame de Sévigné fleurissent plus à Livry. Je me souviens d'une lettre où elle parle de sa fille, alors absente, où elle reprend tous les pas de sa fille. Elle rechausse leurs anciennes empreintes et se promène en son absence comme si sa fille était présente. Elle s'allonge sur le banc où s'allongeait sa fille. Elle parle.
Il semble que mon cœur veuille se fendre par la moitié. Il semble que vous m'écriviez des injures, ou que vous soyez malade, ou qu'il vous soit arrivé quelque accident, et c'est tout le contraire. Vous m'aimez, ma chère enfant, et vous me le dites d'une manière que je ne puis soutenir sans des pleurs en abondance. Vous continuez votre voyage sans aucune autre aventure fâcheuse. Et lorsque j'apprends tout cela, qui est justement tout ce qui me peut être le plus agréable, à l'état où je suis.
Ben, des fois, ça y arriverait le dimanche après-midi, comme ça.
Qu'est-ce que vous lisez, par exemple ?
Oh, je ne vois pas, moi. Des livres que les filles, des fois, elles la jettent, alors...
Quel genre de livres elles la jettent avec vous ?
Oh, je ne sais plus, moi, ce qu'elles la jettent.
Vous avez une fille ?
Non, elles ne sont pas là.
Elles ne sont pas là ?
Non, non. Non, des fois, je regarde, je ne sais pas de la lecture, ça, mais enfin, c'est de la mode et...
Vous n'avez jamais participé à la visite du château quand il y a des gens qui viennent... Vous n'avez jamais fait une visite ?
Oh non.
Jamais ?
Non. Non, non.
Et vous n'avez jamais lu de texte de Madame de Sévigné ?
Non. Non, jamais. Vous voyez, c'est pas la peine d'être si près. Hein.
Mais non, mais vous êtes dessus, alors en fait, c'est oui. Peut-être pas la peine tellement de le dire.
Madame de Sévigné chante, bien sûr, on pourrait dire que c'est le chant d'amour qui commence quand sa fille s'absente, s'éloigne à travers la France du XVIIe siècle, à travers deux fleuves, la Loire et le Rhône traversés. L'importance du Rhône, par exemple. Fracas du Rhône, la peur qu'a Madame de Sévigné que sa fille se noie. En fait, que son propre inconscient se noie. Lorsqu'elle manque de se fracasser contre le pont de la chanson d'Avignon. Il me semble que moi, j'ai essayé de refaire un peu cet itinéraire noir, sans trop savoir, comme Madame de Sévigné, si sa fille allait en réchapper. Elle en réchappe. Somme toute, c'est une préoccupation constante d'ouvrir des livres du XVIIe siècle en les confrontant au bruit d'aujourd'hui. Il y a peut-être un XVIIe siècle de la sensibilité à retrouver, je ne sais pas.
Vous vous amusez donc à penser à moi, vous en parlez et vous aimez mieux m'écrire vos sentiments que vous n'aimez à me les dire. De quelque façon qu'ils me viennent, ils sont reçus avec une tendresse et une sensibilité qui n'est comprise que de ceux qui savent aimer comme je fais. Vous me faites sentir pour vous tout ce qu'il est possible de sentir de tendresse. Mais si vous songez à moi, ma pauvre bonne, soyez assurée aussi que je pense continuellement à vous. C'est ce que les dévots appellent une pensée habituelle. C'est ce qu'il faudrait avoir pour Dieu, si l'on faisait son devoir. Rien ne me donne de distraction. Je suis toujours avec vous. Je vois ce carrosse qui avance toujours et qui n'approchera jamais de moi. Je suis toujours dans les grands chemins. Il me semble que j'ai quelquefois peur qu'il ne verse. Qu'il fait depuis 3 jours me mettent au désespoir. Le Rhône me fait une peur étrange. J'ai une carte devant mes yeux. Je sais tous les lieux où vous couchez. Vous êtes ce soir à Nevers. Vous serez dimanche à Lyon. Vous recevrez cette lettre.
C'est le 13 septembre 1677. C'est le 13 septembre 1677. Elle dit, elle vient d'apprendre que sa fille rentrera à Paris, donc elle en est contente. Elle dit, je n'ai nul dessein d'en sonner la trompette. C'est-à-dire qu'elle ne va pas chanter victoire de ce retour, qui est une réconciliation par un certain angle. Mais il a fallu le mander à Dagueville pour nous arrêter le carnavalet. Il me semble que c'est une grande commodité à toutes deux, et bien de la peine épargnée de n'avoir pas à nous chercher. Vous voyez, la peur, c'était la dispersion dans Paris, c'était de ne pas se retrouver quotidiennement à chaque instant. Le carnavalet, c'est le lieu de la rencontre.
Ayez pitié de moi. Conservez-vous, si vous voulez que je vive. Vous m'avez si bien persuadé que vous m'aimez, qu'il me semble que dans la vue de me plaire, vous ne vous hasarderez point. Mandez-moi bien comme vous conduirez votre barque. Hélas, quelle m'est chère et précieuse, cette petite barque que le Rhône emporte si cruellement.
c'était au moment où elle avait un rhumatisme, une espèce de rhumatisme articulaire. Elle avait les mains complètement déformées. On n'a jamais su trop bien ce qu'elle avait.
Vous alliez à l'école jusqu'à 12 ans, vous avez été à l'école.
Oui,
à l'école.
J'étais 11 ans, 11 ans et demi.
C'était une institutrice ou un instituteur ?
Moi, instituteur, oui, j'aurais continué plus longtemps. Moi, ma mère aime bien. J'aurais dit, veux-tu continuer à l'école ? Ben, je lui ai dit, pourquoi ? Ben, elle dit, parce que si tu m'aides pas, je ne peux plus payer.
Au fond, vous auriez aimé continuer. Et vous avez donc obligé de vous arrêter.
D'arrêter pour donner la main, quoi.
Et votre mère est restée longtemps avec vous, enfin, je veux dire...
Ben, juste même avec nous. Elle a été 14 ans de temps avec nous, étant mariée, quoi. Et puis mon frère aîné, qui n'était pas marié non plus.
Où est-il, maintenant ?
Il a Balazé, lui.
Balazé, où
est-ce ? C'est de l'autre côté de Vitré, aussi.
Près de Montreuil ?
Près de Montreuil.
Oui, c'est de l'autre côté.
Il s'est marié très tard, il a pris une veuve, et puis il est très bien marié.
Et il est agriculteur, aussi.
Oui.
Quelle heure est-il ? J'entends des bruits de pas. Un chuchotement, l'atmosphère d'une chambre malade. Des portes au loin que l'on retient, certainement de battes. Le bois des boiseries travaille. Une femme écrit.
De toutes les lettres que vous m'avez écrites sur le chemin. Vous m'avez écrit partout. J'ai admiré votre bonté. Cela ne se fait point sans beaucoup d'amitié. Sans cela, on serait plus aise de se reposer, de se coucher. Ça m'a été une consolation grande. La science que j'ai d'en avoir encore et de Roanne et de Lyon et de votre embarquement n'est pas médiocre. Et si vous avez descendu au pont et de votre arrivée à Arles, et comme vous avez trouvé ce furieux Rhône en comparaison de notre pauvre Loire à qui vous avez fait tant de service.
Partie, embarque sur le Rhône. Comme si sa fille se noyait, elle risquait elle-même le naufrage. Comme s'il était emporté par le courant qui coule jusqu'en Camargue. Elle risquait de se retrouver vieille défroque aux embouchures.
Je vous avoue que j'ai une extraordinaire envie de savoir de vos nouvelles. Songez, ma chère bonne. Je ne sais rien de votre voyage jusqu'à Lyon, ni de votre route jusqu'en Provence. Je me dévore en amour. J'ai une impatience qui trouble mon repos. Je suis bien assurée qu'il me viendra des lettres. Je ne doute point que vous ne m'ayez écrit. Et je les attends. Et je ne les ai pas. Il faut se consoler, s'amuser en vous écrivant. Le Rhône, ma chère fille, me tient fort au cœur. Je crois que vous êtes arrivée heureusement. Mais j'ai bien à le savoir par vous.
Et alors là, en souvenir moins proche tout de même de l'homme Sévigné, tout de même souvenir, il y a l'acte de vente des rochers.
De 1715.
1715, donc comme l'a dit M. Ternay à Jean-Paul Hay, baron des Thumières.
C'est ça. L'année de la mort de Louis XIV, en fait. 1715.
Ça.
Oui, c'est ça. Et autrement, le gros livre qui est en dessous, c'est un livre manuscrit, qu'est-ce que c'est ?
Oui, c'est ça. C'est un livre qu'elle a rédigé elle-même. Et elle y a recopié plusieurs passages d'ouvrages qu'elle aimait.
Oui, c'est un livre de combien de pages ?
Oh, c'est assez épais, voyez-vous. Vous voyez cette tranche, il y a peut-être 60 feuillets. Je pense qu'elle a recopié des passages qu'elle avait particulièrement appréciés.
Je lis les sous-signés auxquels le marquis d'Ennetumière a présenté de l'écriture de Madame de Sévigné avant de placer
sous leurs yeux ce cahier
manque les pages
suivantes appartiennent
à cette femme qu'elle les a tracées
dans de sa jeunesse et dans un temps où sa main n'était pas encore formée au rocher le 15 septembre 1825.
Elle se trompe peut-être parce qu'il y a une période où elle écrivait très difficilement, puisqu'elle avait un rhumatisme des mains.
Ce fleuve n'est composé que d'eau comme les autres. J'en suis surprise, j'en ai une idée extraordinaire. Il me semble qu'on devrait dire 1000 sources de sang forment cette rivière qui, traînant des corps morts et des vieux ossements, au lieu de murmurer, fait des gémissements.
Saint-Denis. C'est là qu'habitait son oncle, qu'elle appelait le bien bon. Il y a des lettres datées de cet endroit. Et j'ai toujours l'impression que les lettres datées de cet endroit sont feuillues, moussues, parcourues d'eau vive. J'ai pas été à l'abbaye de Livry, je sais même pas s'il en reste quelques jardins. Mais enfin, c'est une sorte de retraite édénique dans l'atmosphère brûlante qui souvent anime les lettres. Il y a une espèce de fraîcheur qui sourd toujours de Livry et qui emporte tout le côté charmant de la famille de Madame de Sévigné, les Coulanges, famille de sa mère, ces financiers qui habitaient Place Royale, à côté de la Place Royale, et que j'imagine vitupérant dans la gaieté, dans les cris. Une espèce de fraîcheur extrêmement lucide, qui a animé les premières années de Madame de Sévigné, lorsqu'on lui faisait apprendre le latin, l'italien, l'espagnol, je crois. Lorsqu'on lui apprenait à chanter, lorsque Ménage, son professeur avec Chaplin, venait à la fois lui enseigner l'italien, mais aussi lui adresser des lettres amoureuses, dont elle se moquait, dont elle était charmée. Il y a tout cela, en fait, sur Madame de Sévigné.
À Ménage.
On ne peut pas du tout le reconstituer. On a une lettre de Madame de Sévigné, et puis on a un état des lieux actuel, et puis on a aussi l'inventaire après décès de Madame de Sévigné. Et bien entre ces trois documents, ce qu'on voit, oui, ce qu'on lit, et ce que dit Madame de Sévigné, il y a un déiatus, parce que il faudrait, je suppose, déplacer des cloisons, rouvrir des escaliers.
Non, je crois tout de même que ces trois pièces sont indiscutablement... C'était indiscutablement l'appartement de Madame de Sévigné, et comme ce sont de gros murs, on n'a pas pu les déplacer. Ça, la lettre est à laquelle vous faites allusion est extrêmement explicite. C'est bien dans ce corps de logis du premier étage, le corps de logis principal de l'hôtel, qu'elle habite. Seulement, ce qui est très difficile, c'est de savoir ce qui s'est passé aux deux bouts.
Bon, madame, pour la chambre, je ne sais pas, je vais toucher de mettre ça bout à bout, parce que... Marquise de Sévigné, elle habitait le château des Rochers en 1644. Cette chambre était appelée par elle le cabinet vert, et la tradition rapporte que c'est dans la fenêtre du nord qu'elle écrivait ses lettres. Alors le dessus de lit, les fauteuils et les prie-dieux sont de l'époque, on m'a dit. D'abord, je le disais. Les objets de toilette qui sont dans la vitrine... oui, c'est bien ça. Les objets de toilette sont en... On m'a dit que c'était du... Attendez donc, du japonais. C'est décoré de laquais japonais. Dans la vitrine se trouve le livre de compte du jardinier Pilois. Sa théière.
Ménage. Si Montreuil n'était point 12 fois plus étourdi qu'un hanneton, vous verriez bien que je ne vous ai fait aucune malice. Car il se chargea de vous faire savoir que je ne pouvais vous aller prendre, et me le promit si sérieusement, que croyant ce qu'il me disait, qu'il n'était plus si fou qu'il avait été, je m'en fiais à lui, et c'est la faute que je fis. Outre cela, le temps épouvantable qu'il fit, vous devez assez dire que je n'irai point au cours. Outre cela, le temps épouvantable qu'il fit, vous devez assez dire que je n'irai point au cours.
Il est certain que cette espèce de nomadisme dont je parlais, qui consistait à transporter ses tapisseries, il y a énormément dans les inventaires de meubles démontables, n'est-ce pas ? Il y a des coffres qu'on peut transporter et il y a des sièges démontables, beaucoup de pliants. C'est extraordinaire, d'ailleurs, quand vous voyez dans un Abraham Bosch, plutôt, vous voyez les pliants allongés, n'est-ce pas ? On n'avait pas, c'est le souvenir du temps où la cour de France envoyait devant elle une équipe pour meubler le château quand le roi venait, n'est-ce pas? Mmh. Et ce n'est plus tard, mais au temps de Mme Sévigné, ce n'était plus vrai à la cour, bien sûr. Mais
dans les mœurs des
gens. Et alors, le garde-meuble qui existait dans presque toutes les maisons et qui existe là, peut-être simplement parce qu'elle est allée, elle est repartie dans le midi et qu'on a rangé les meubles en son absence, il y a dans beaucoup de maisons riches un mobilier d'hiver, un mobilier d'été, l'un en velours, l'autre en soie ou en choses plus légères. On change les tapisseries, les meubles selon les saisons, selon qu'on est plus ou moins riche, bien sûr.
Oui, vu des revues par lesquelles elle racontait qu'elle avait été fanée un coup à Prairie des Rochers, je ne sais pas pourquoi.
Parce qu'elle avait des rapports avec les fermiers du temps, quoi.
Oui.
Et qui étaient des rapports souvent pas faciles. Enfin, je veux dire,
oui, c'est-à-dire elle est ridiculisée un peu. Hein.
Ah, trop, oui.
Oui, c'est ce que j'ai.
Oui, vous avez raison.
Ben oui, je reviens toujours à dire qu'on prenait le fermier autrefois pour un bon film.
Tout cela vous fait voir que je n'ai aucun tort. C'est pourquoi je vous conseille, puisque vous êtes revenu de Pontoise, de n'y point retourner pour vous pendre. Cela n'en vaut pas la peine.
Cette pièce-ci était appelée le cabinet vert et servait pour mettre le blé des métayers.
Ah oui.
Et alors un beau jour, un homme, en laissant tomber un sac un peu brutalement, a fait paraître une tache verte. Et immédiatement, mon grand-père a dit, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas la chambre de M. Vigny-là? Ça serait beaucoup plus commode qu'il avait dans la maison.
Ah ben, les maïs sont faits, là, on va faire des clôtures pour des bêtes. On a abattu du bois dans les fonds, là, alors il faut que ça soit clos pour mettre les bêtes, quoi.
Vous allez vous occuper des bêtes en fin de journée, quoi.
Ah ben oui, les rentrer, les traire, les remettre dehors.
Et vous dînez le soir à quelle heure, votre anniversaire? 8h, voilà.
Et vous y serez toujours reçu quand vous voudrez bien, mon cher. Croyez que je ne suis point irrégulière pour vous et que je vous aime très fort.
Et l'échantillon, c'est pour vérifier la qualité ou c'est pour
le poids, la matière
grasse. Pour le reconnaître après.
Non, c'est la matière grasse. Ouais.
Moi, je suis séviniste par les portraits, mais je ne suis pas séviniste par les lettres.
C'est à ce propos. Marie de Rabutin-Chantal, née en 1626, était fille du baron de Chantal. Duelliste effrénée, et un jour de Pâques quitta la Sainte Table pour aller servir de second au fameux comte de Bouddeville. Élevée par son oncle, bon abbé de Coulanges, elle avait de bonne heure reçu une instruction solide et appris sous les soins de chapelain et de ménage le latin, l'italien et l'espagnol.
18 ans, elle avait épousé le marquis de Sévigné assez peu digne d'elle, et qui, après l'avoir beaucoup négligé, fut tué dans un duel en 1651. Madame de Sévigné, libre à cet âge, avec un fils et une fille, ne songea pas à se remarier. Elle aimait à la folie ses enfants, surtout sa fille. Les autres passions lui restèrent toujours inconnues. C'était une blonde rieuse, nullement sensuelle, fort enjouée et badine. Les éclairs de son esprit passaient et reluisaient dans ses prunelles changeantes, et comme elle le dit elle-même, dans ses paupières bigarrées. Elle se fit précieuse, elle alla dans le monde, aimée, recherchée, courtisée, semant autour d'elle des passions malheureuses auxquelles elle ne prenait pas trop garde, et conservant généreusement pour ami ce même dont elle ne voulait pas pour amant. Son cousin Bussy, son maître ménage, le prince de Conti, frère du grand Condé, le surintendant Fouquet perdirent leur soupir auprès d'elle. Mais elle demeura inviolablement fidèle à ce dernier dans sa disgrâce. Et quand elle raconte le procès du surintendant à M. de Pomponne, il faut voir avec quel attendrissement elle parle de notre cher malheureux. Jeune encore et belle, sans prétention, elle s'était mise dans le monde sur le pied d'aimer sa fille et ne voulait d'autre bonheur que celui de la produire et de la voir briller. Mademoiselle de Sévigné figurait dès 1663 dans les brillants ballets de Versailles. Et le poète officiel qui tenait alors la cour, la place que Racine et Boileau prirent à partir de 1672, Benserade, ou Benserade, fit plus d'un madrigal en l'honneur de cette bergère et de cette nymphe qu'une mère idolâtre appelait la plus jolie fille de France. En 1669, M. de Grignan l'obtint en mariage et 16 mois après, il l'amena en Provence, où il commandait comme lieutenant général durant l'absence de M. de Vendôme. Désormais séparée de sa fille, qu'elle ne revit plus qu'inégalement, après des intervalles toujours longs, Madame de Sévigné chercha une consolation à ses ennuis dans une correspondance de tous les instants qui dura jusqu'à sa mort en 1696 et qui comprend l'espace de 25 années, sauf les lacunes.
D'abord, vous comprenez, on ne peignait pas Mme de Sévigné qui avait une lettre à cette époque-là. C'est impensable, n'est-ce pas? Au point de vue psychologique, c'est absolument impensable. Alors, les deux portraits, c'est celui-là et celui-là. À mon avis, celui-là plus jeune. Et à mon avis, celui-là...
Elle a à peu près dans, pas loin de 50 ans, 45 ans.
Ah oui, attendez, je vais vous dire exactement comment j'ai cru. J'ai cru...
C'est beaucoup empâté.
C'est empâté, oui. C'est empâté. Il y a ce portrait-là qui est en très mauvais état, mais qui est indiscutablement elle.
Très beau. Mais quel âge a-t-elle?
Très mauvais état.
Elle a l'air tout à fait impétueuse, là, dans ce portrait. Quel âge a-t-elle? 25, 26 ans.
Oh,
plus 30.
Vous savez, il est très difficile de dater le portrait d'après leur âge quand on parle de portrait du XVIIe siècle. C'est très, très, très difficile, parce que le physique des gens ne répond absolument pas à ce que nous imaginons, n'est-ce pas? On marie les filles quand tellement les roses marient, on se marie avec une fille qui a 12 ans. On se consomme pas le mariage tout de suite, mais enfin on trouve normal de marier à 12 ans.
Elle est blonde, mais de ce blond qui n'a rien de fade et qui sied bien à la beauté. Pour le teint, elle l'a si admirable. Il n'est pas au pouvoir des plus rigoureux hivers d'effacer le bel incarnat qui le rend si beau et qui donne un si grand éclat à sa merveilleuse blancheur, qu'on y voit en toute saison cette fraîcheur qu'on ne voit qu'au lever de l'aurore sur les plus belles roses du printemps. Pour les lèvres, elle les a de la plus belle couleur du monde. Elle a le tour du visage beau, les yeux bleus et pleins de feu, et les joues si aimables qu'elle ne sourit jamais qu'on y voit ce qu'on ne saurait exprimer. Quant à son esprit, je ne sais si je pourrais vous le faire bien comprendre, mais je sais bien qu'il n'en fut jamais un plus agréable, mieux tourné, plus éclairé, ni plus délicat. Elle a l'imagination vive, et l'air de toute sa personne est si galant, si propre et si charmant qu'on ne peut sans honte la voir sans l'aimer. Elle avoue pourtant qu'elle est parfois sujette à quelques petits chagrins sans raison qui lui font faire trêve avec la joie pour 3 ou 4 heures seulement. Sa conversation est aisée, divertissante et naturelle. Elle parle juste, elle parle bien. Elle a même quelquefois certaines expressions naïves qui plaisent infiniment.
Madame de Sévigné, vous êtes grandie, elle est montée sur un escabeau, on le voit. Le...
Elle était petite, Madame de Sévigné
Non, mais enfin, pour le tableau, elle s'est fait agrandir. Elle est montée sur l'escabeau. C'est un très beau portrait, très fin.
Et de qui est-il? On ne sait pas.
On ne sait pas.
Plutôt Malédon,
certainement.
Il est attribué à Sébastien Bourdeau. Maintenant, je ne dis plus rien, tout le monde n'est pas d'accord.
À Sébastien Bourdeau.
Sébastien Bourdeau.
Bourdeau.
Et alors, à droite du chat, nous avons un autre Charles qui est aussi Charles de Sévigné, mais celui-ci est comte de Montmoreau et c'était un cousin de Mme Sévigné, qui d'ailleurs avait un rôle au Parlement de Bretagne.
Il était conseiller au Parlement
Oui. Est-ce que ça a eu un rapport avec la femme de Charles de Sévigné, qui était une Duplessis-Mauron?
Non, parce que c'est Montmoron, là. Vous connaissez ça? Montmoron, oui, avec un O, alors que Charles... Est-ce que l'épouse de Charles, c'est E-A-U. Moron avec un A-U. Là, alors, on peut parler peut-être... De ces deux chaises qui sont 17e et qui peuvent donc être des potes
de Madame de Sévigné.
Madame de Sévigné.
Elle a pu s'asseoir ici.
C'est cela.
Vous dites que vous voudriez bien me faire entrer dans votre chambre et m'entendre discourir. C'est ma folie que de vous voir, de vous parler, de vous entendre. Je me dévore de cette envie. Et du déplaisir de ne pas vous avoir assez écouté, pas assez regardé.
Et au-dessus, c'est Emmanuel de Coulanges et son cousin, celui qui écrivait des chansons. Ça, c'est Mme de Lambert. C'est le seul tableau qui ne soit pas de l'époque de Mme de Sévigné. Mme de Lambert tenait un salon à Paris sous Louis XV.
Et vous, comment ce personnage?
Alors, Mme de Coulanges, vous l'avez vu, c'est sa mère.
Oui, Rabut...
oui Coulanges, née de Coulanges.
Oui,
ensuite. Ensuite, c'est la duchesse de Chaulnes, la femme du gouverneur de Bretagne.
Ah, c'est ça.
Dont le mari est là.
Dont le mari est là.
Le gouverneur
des États de Bretagne, quand elle avait été.
Qu'elle recevait aussi bien au Rocher que dans l'hôtel Sévigné à Vitré.
Et qui sont ces personnages hein,
Il y a le marquis de Sévigné, son mari.
Le marquis de Sévigné était beau.
Alors aussi, vous avez le duc de la Rochefoucauld, oui. Madame de Lafayette, et la princesse de Tarente qui était propriétaire
du
château de Marie.
Et c'est un petit médaillon d'époque.
Oh, ma foi, oui, on peut le penser. Il est d'ailleurs assez charmant.
Oui, il est charmant et il a un visage intelligent.
Il n'est pas que très fin.
Ah oui.
Oui. Il n'est pas déplaisant, cette personne.
Les vaches, voyant un étranger dans les tables, souvent.
Oui, elles sont sensibles.
Ah oui. Ça habitue la personne, oui. Il y a des fois, certains prennent des vachers, mais c'est pas toujours la bonne solution. Ça coûte très cher, et puis, quand ils ont les jours qu'ils ont passé, il y a souvent pas de télé.
Le portrait de Nanteuil. Qui est un pastel tout de même un peu fatigué, parce que les pastels se fatiguent, pâlissent avec le temps, est inférieur, à mon avis, au portrait que j'ai acheté il y a quelques années, qui vient directement de la branche aînée de la famille de Sévigné, n'est-ce pas, des descendants de Madame de Sévigné, qui est le portrait par Claude Lefebvre, qui la montre justement animée. Et alors c'est là qu'on voit combien cela correspond admirablement, par exemple, même au portrait qui est dressé par aux deux portraits écrits que l'on a d'elle, l'un qui est par Bussy Rabutin, l'autre, je ne me souviens plus par qui exactement, n'est-ce pas, les deux portraits dessinés, et qui montrent, c'est Madame de Lafayette, je crois, qui en parle, n'est-ce pas, en parlant
de... Mademoiselle de Scudéry, la princesse Clara.
En parlant de cette animation de son visage, et bien là, vraiment, elle a le visage pétillant d'esprit, et en même temps, elle a quelque chose qui est confortable, elle est un petit peu grasse. Elle a un léger embonpoint. On la sent un peu capitonnée, si j'ose dire. Et on la sent confortable dans la vie, heureuse de vivre, épanouie de vivre. Elle a naturellement ses soucis, ses tourments, toutes sortes de choses. Mais enfin, c'est une femme qui a joui profondément de la vie qu'elle a eue. Et elle en jouit dans les moindres petites choses. Je trouve que... quand elle est à la campagne, elle jouit de la campagne. Quand elle est à Paris, elle jouit de Paris. Enfin, elle est vraiment quelqu'un qui est infiniment sensible à toutes les petites choses de l'existence et aux autres, d'ailleurs.
Il me semble pourtant que je n'en perds guère le moment. Mais enfin, je n'en suis pas contente. Oh, je suis folle. Il n'y a rien de plus vrai, mais vous êtes obligée d'aimer ma folie. Je ne comprends pas comment on peut... tant penser à une personne. N'aurais-je jamais tout pensé? Non. Que quand je ne penserai plus.
Madame de Sévigné adore faire peindre sa fille et elle dit dans une lettre fameuse qui est adressée de Carnavalet, n'est-ce pas, à sa fille, « Nous sommes entourés de vos portraits. » Par conséquent, de vos portraits. Oui, nous sommes entourés de vos portraits. Mais il faut penser que le portrait au XVIIe siècle, le portrait peint, est quelque chose qui a, par certains côtés, des rapports avec la grande photographie qu'on donne à ses amis. Quand on fait peindre un portrait, on en fait peindre un original et puis une, deux, trois répliques. Et Madame de Sévigné se bat pour ne pas laisser copier le portrait de Madame de Grignan, parce qu'elle a l'impression qu'on lui enlève un peu quelque chose. Oui, alors elle cède une fois, puis après ça elle dit non, c'est fini, je ne céderai plus, je ne laisse plus.
On lui enlève
plus.
Quelque chose de la beauté en donnant des copies.
Elle refuse le portrait à Madame de Fontevraud, qui est la sœur de Madame de Montespan, et elle accepte de faire la copie pour Monsieur Lagarde, qui est un cousin, et elle dit ce que je n'ai pas donné à la faveur, je l'ai donné à l'amitié.
Il y a comme une sorte de récit qui s'ébauche à partir de la première lettre. J'imagine Madame de Sévigné l'écrivant au soir, un feu dans la cheminée, le bois des brasiers qui travaille, le silence qui a presque un son flambant. Elle écrit.
Enfin, ma bonne, me voilà prête à monter dans ma calèche. Voilà qui est fait. Je vous dis adieu. Jamais je ne vous dirai cette parole sans une douleur sensible. Ce départ me fait souvenir du vôtre. C'est une pensée que je ne soutiens point tout entière que l'air de la veille et du jour que je vous quittais. Ce que je souffris est une chose à part dans ma vie qui ne reçoit nulle comparaison. Ce qui s'appelle déchirer, couper, déplacer, arracher le cœur d'une pauvre créature, c'est ce qu'on me fit ce jour-là.
Mademoiselle de Scudéry me disait l'autre soir, ce qu'il y a de plus noble, ce qu'il y a de plus louable, c'est que quoi qu'elle chante d'une manière passionnée, qu'on puisse effectivement dire qu'elle chante fort bien. Elle chante pourtant personne de condition, c'est-à-dire sans y mettre son honneur, sans s'en faire prier, sans façon. Et elle fait cela si galamment qu'elle en devient encore plus aimable. Il est pas loin de 22h. Le métro n'est pas le Rhône, aucun risque de se noyer contre le pont de la Chanson. D'Avignon. Aucun remous autre que ceux du sommeil à la fin du trajet. Se maintenir à la surface. Se maintenir à la surface juste le temps nécessaire. Descendre du train. Parcourir deux rues, négocier un virage, monter 5 étages. Et... tard, je rentre.
Lettre recommandée. Madame de Sévigné chante. Par Michel Chailloux. Jean-Loup Rivière. Cet atelier de création radiophonique a été diffusé le 5 décembre 1976 sur France Culture.